Radio Okapi.
Radio Okapi.
Étoile.
Étoile.
Auditeurs, auditrices des Radio Okapi, bonjour. Merci de choisir à la Radio de la Paix. Aujourd'hui, nous recevons dans les magazines étoiles le directeur général de l'Observatoire volcanologique de Goma, OVG. C'est à l'occasion du 21e anniversaire de l'éruption du Nyiragongo le 17 janvier 2002. De sa jeunesse à ses fonctions actuelles, en passant par sa première rencontre avec les volcans et sa longue formation, ce scientifique congolais qui va fêter ses 48 ans au mois d'août partage avec nous son parcours, sa vision pour cet observatoire et un peu de sa vie de famille. Je suis Rosalie Zawadi et c'est dans son bureau que Monsieur le directeur général de l'OVG nous reçoit. Bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Vous pouvez vous présenter vous-même?
Je réponds au nom d'Adalbert Mouindo, Siavulisembo. Je suis professeur docteur en sciences. Je suis le premier fils de mon père, d'une famille de 7 enfants. Devant moi, il y a 2 filles et après moi, il y a aussi 2 garçons et aussi 2 filles aussi.
Vous êtes marié?
Ah oui, je suis marié. Je suis marié à ma chère épouse Rachel Sivamwanzire. Je suis père de 4 enfants. Déjà l'aîné en 6e année secondaire en pétrochimie.
Aujourd'hui, vous êtes directeur de l'Observatoire volcanologique de Goma. Pour commencer, d'où vous vient la passion pour les volcans?
En fait, je n'avais jamais pensé un jour que je serais volcanologue. Bon, à l'école primaire, j'étais dans un village qu'on appelle Vichumbi. Après, nous allons déménager jusqu'ici à Goma en 1990. Et je vais étudier à l'école secondaire, le City Majengo, comme on l'appelait. Et je suis parmi le tout premier qui avait déménagé de Kiporo à Majengo vers le City Majengo que vous connaissez aujourd'hui. Mmh. Et c'est là où j'ai fini à l'école secondaire en mathématiques physiques. Je me rappelle encore c'est une époque où on faisait des génies en herbe. J'étais parmi les représentants de l'école City Majengo quand on faisait des concours entre litiges, le Faradja et Mwanga. En fait, on était dans une vie où on faisait des compétitions pour essayer d'éprouver nos connaissances. Et ça, j'aimais beaucoup.
Et donc, vous obtenez votre diplôme en maths physique à l'Institut Majengo.
Oui. Après ce diplôme, je suis allé à l'ISTA, l'Institut Technique Appliquée. Quand on parlait d'ISTA Force, c'était vraiment une force qu'on essayait toujours d'éprouver par des connaissances. Et ça m'a fort passionné. J'ai fini pour obtenir un diplôme de licence en génie informatique.
Si on parlait un peu d'ISTA Force, aujourd'hui, ISTA Force a une connotation négative dans la ville de Goma.
Mais si vous voyez un peu, à l'époque, quand nous on était à l'ISTA, on était avec des professeurs comme Boneza, Dangou Antim, qui était le grand mathématicien de la région. Et je pense que, si j'ai bonne mémoire, c'était la seule institution où on l'acceptait comme enseignant, parce que c'était vraiment dur. Et là, c'était des preuves de connaissances. La réussite vraiment était très, très difficile à l'ISTA. Ce n'était pas l'ISTA en force physique, mais c'était plutôt l'ISTA force en intellect.
Et après l'ISTA, là, il n'y a pas encore même une image des volcans dans tout ce que vous faites.
Oui. Jusque-là, je ne passais pas à ça. Mais en fait, ce qui m'a beaucoup révolté en volcanologie, c'était d'abord l'éruption de 2002 que j'ai vécu comme un jeune fort, courageux, qui a essayé d'observer la lave dès le début jusqu'à ce que la lave est entrée dans les lacs. Nous, on suivait comme des enfants curieux la coulée des laves et ça devait même nous emprisonner dans certaines zones. Et donc, ça m'a quand même interpellé que non, mais ça, c'est un risque que nous vivons avec. Mmh. Et là, je vais obtenir mon engagement juste après l'éruption. Moi, j'étais engagé à l'OVG en 2006 et à l'époque, c'était le CRSN. Donc, je devais aller à l'UIRO et travailler à l'UIRO, à le CRSN. Mmh.
Oui, avant de parler de votre travail à l'URO, revenons un peu sur la façon dont vous avez vécu l'éruption de 2002. Donc, vous dites que vous avez suivi la lave depuis le territoire de Nyiragongo jusqu'à ce que la lave a touché les lacs vers 20h30, comme c'est repris sur votre carte ici.
Ah oui. Bon, je me rappelle, j'avais des amis, hein, mon frère, mon ami Richard, que je salue à passant. Il était arrivé chez moi et puis il m'a dit, non mais, est-ce qu'on ne peut pas quitter la ville? Et moi, je lui dis non, il faut plutôt aller voir comment ça va se passer. Et là, nous sommes allés et montés pour aller voir la coulée des laves. Au retour, parce qu'en fait, la lave n'était pas venue directement brutalement dans la ville. Et il y avait des communications qui se passaient sur les voies des ondes, comme quoi il n'y aura pas d'éruption, c'est déjà maîtrisé et qu'il ne faut pas paniquer. Et puis, bon, on a commencé même à préparer à manger. Quand on mangeait, puis on a vu que non, mais la lave ne cessait de continuer de progresser vers nous. Et là, nous sommes allés encore voir, contempler la lave.
Et là, il faisait déjà nuit.
Oui, oui, il faisait déjà nuit. La lave a traîné dans les Majengo. On va d'atteindre la cathédrale. Il y avait vraiment un ravin. Et donc, la lave ne cessait de s'accumuler là-bas. Et nous, on s'était dit que non, mais peut-être que la lave va s'arrêter et ne va pas détruire la ville. Et quand la lave va atteindre le marché de Virunga, on s'était dit non, nous allons voir comment cette lave va détruire la cathédrale. Nous avons attendu pendant longtemps et puis j'ai commencé à avoir des maux de tête parce qu'il y avait trop de gaz. Et je vais dire à mon ami Richard, non, non, il faut descendre à ville. Arrivé dans la ville, nous sommes allés chez un de ses frères et nous sommes restés là-bas jusqu'au moment où la lave est arrivée proche de la maison. Et quand la lave était descendue dans les lacs, nous avons crié que non, mais il y a une nouvelle coulée. Une nouvelle éruption qui sortait par les lacs. Et là, nous avons commencé à enfouir. Et allez, malheureusement, à ce moment-là, il y a eu des crépitements de balles un peu partout. Et donc, on a été obligé de rester dans la maison. Ne sachant pas que la lave était déjà à moins d'une vingtaine de mètres de nous. Et le matin, on va voir que non. Ah, donc la lave pouvait même nous emprisonner dans cette maison. Mmh. Et donc, c'est une expérience que j'ai vécue. J'ai toujours pris ça comme exemple pour dire à la population, non, non, il ne faut pas rester quand on vous demande d'évacuer la zone à risque.
C'est cette expérience, ces risques que vous avez réalisés, qui vous a motivé à travailler sur le volcan?
Oui, 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 c'est ça, évidemment, parce que j'ai compris qu'on doit quand même essayer de se mettre à l'abri de ces risques. Ça m'interpellait quand même, je me suis dit, mais pourquoi ne pas suivre ce domaine? Et directement, juste après cette éruption, je vais commencer à faire assez de demandes pour que je puisse intégrer l'observatoire. Et c'est en 2006 qu'on va m'accepter comme agent à l'observatoire.
4 ans après l'éruption.
Oui, 4 ans après l'éruption. Et là, je vais commencer à l'URO, oui, où je vais travailler sous des éminents scientifiques comme Kavota Kalendi, qui était encore une fois directeur scientifique. D'ailleurs, quand j'ai été invité ici, j'ai été son secrétaire. Il y a aussi le professeur Feba Diope et beaucoup d'autres scientifiques comme Lukaya, le professeur Wafula, le Kasere Kamaina et les autres comme Mavonga Tuluka. Tout ce monde-là, nous avons travaillé ici. On était une petite équipe de moins de 15 scientifiques ici à l'Observatoire. Et donc, j'ai trouvé cette ambiance et ça m'a beaucoup passionné. Et là, je vais demander une formation au niveau international où je vais être accepté à aller étudier la nouvelle technologie à l'INIKIN, où je vais embrasser les domaines des systèmes de formation géographique pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut faire des modèles et s'y mettre la population à l'abri. J'arrive à KIN, je suis un simple assistant, mais nous allons être dans une réunion avec des professeurs d'université, avec des gens qui ont des maîtrises, et je serai pour la première fois sélectionné parmi les 7 personnes qui doivent aller faire des thèses en Europe. Malheureusement pour moi, le professeur Marie Vonne, qui s'intéressait beaucoup au travail que j'avais présenté là-bas, il va me dire, non, mais il faut que toi, tu puisses faire une thèse. Et je vais lui dire, non, malheureusement, madame, je n'ai pas une maîtrise. Et là, ça m'a révolté. Mmh. Donc, à cause de ne pas avoir une maîtrise, je vais rater cette bourse de thèse, qui était pour moi la toute première. Parce qu'il faut aussi comprendre que même les thématiques que j'avais traité à génie informatique, c'était toujours des thématiques orientées éruption volcanique, parce que j'ai traité un thème qui était intitulé « L'usage du SIG, donc le système de formation géographique pour la gestion de risques volcaniques à Goma ». Et donc, une idée vers la gestion de crise, même que je sois en informatique appliquée, mais c'était toujours de chercher à comprendre comment est-ce qu'on peut gérer le risque volcanique.
Voilà. Et après la perte de cette opportunité, comment vous vous relancez pour poursuivre les études?
Évidemment, j'étais déjà révolté parce que je sentais déjà en moi des capacités. Et cela m'a poussé à commencer à laisser des demandes. Et j'ai lancé ma demande à la communauté universitaire européenne, qu'on appelait CID à l'époque. Actuellement, on l'appelle ARES, où je vais demander une bourse de maîtrise et que je vais obtenir en 2012. Et donc, en 2012, j'étais parti en Europe et laissé ma famille ici. Et donc, j'ai fait au moins 8 ans en Europe, en train de faire des navettes Goma-Europe pour d'abord, premièrement, l'étude de maîtrise, ou encore je vais traiter des sujets toujours orientés volcan. Je veux dire que c'était en gestion des risques naturel, parce que c'est une maîtrise qui est organisée entre le département de géologie de l'Université de Liège et aussi de géographie, toujours de l'Université de Liège. Alors, ce sont ces deux départements qui ont organisé une maîtrise spécialisée à risque naturel que je fais maintenant de l'année 2012 à 2013. Et là, je vais sortir avec une distinction. Et ça aussi, ça va encore me révolter davantage. Et parmi mes promoteurs, je salue à part ça le docteur Nicolas Doré, qui va dire à pleine séance, en pleine soutenance, que non, mais moi, je vais soutenir la candidature de doctorat d'Adalbert Mouindo.
Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur Radio Okapi. Aujourd'hui, l'émission Étoile reçoit M. Adalbert Mouindo, directeur général de l'Observatoire volcanologique de Goma. Et après la maîtrise, comment évolue le processus?
Je devais rentrer dans mon institution, et donc l'Observatoire. Je vais commencer à travailler ici à l'Observatoire. Quand je suis arrivé ici en 2013, vers fin 2013, je vais intégrer l'équipe scientifique. Là, j'attendais seulement EGO pour Luxembourg, parce que c'est l'Université de Luxembourg qui avait dit qu'ils vont me donner une bourse de thèse. Et ça va traîner un peu. Et comme la vision, c'était toujours d'étudier, je vais essayer d'aller à l'Université Makerere. Arrivé à l'Université Makerere, on m'a présenté le coût pour payer les études doctorat. Ce n'est pas facile. Et à l'Université Makerere, quand je voulais prendre déjà l'inscription, je vais recevoir un appel où on me demande non. Il y a un doctorat, un professeur qui va passer ici à Goma et que je puisse discuter avec lui. Je ne savais pas que c'était une évaluation. J'arrive et je discute avec le professeur qui était envoyé par Eleanor Wolf, professeur à l'Université libre de Bruxelles. Et là, il va me dire, OK, j'aimerais que vous puissiez rentrer en Belgique et nous allons faire un article avec vous sur la gestion des crises. Et là, il y avait une bourse d'excellence à la province. Presque à la fin, j'ai rencontré l'ami en passant, c'est Boutsa Pundungo, qui était questeur de l'Assemblée provinciale, où il va me dire, non mais, pourquoi est-ce que vous n'avez pas demandé la bourse d'excellence? C'est lui qui m'a informé qu'il y avait des bourses d'excellence au niveau de la province, dans la vision 2020 de l'excellence Julien Paloukankia, qui est actuellement le ministre de l'Industrie. Et là, je vais déposer mon dossier et partir en Europe avec le professeur là qui était venu me poser des questions. Arrivé en Europe, quelques mois après, je vais avoir une lettre qui me dit « La province du Nord Kivu va me supporter en thèse ». Et directement, j'étais passé maintenant à l'inscription en thèse. Et un an après, la province a connu déjà des troubles au niveau de la région. Et donc, il n'était plus en mesure de payer ma bourse doctorale. Et comme je venais de faire une bonne partie, presque 8 mois, c'était déjà l'année académique qui était à la fin, je vais présenter les résultats de l'année de recherche auprès du labo et leur dire au revoir parce que je devais rentrer au Congo simplement parce que je n'avais pas de bourse. Et les professeurs vont s'exclamer dans la salle, dire que non, ce n'est pas possible qu'une bourse qui avance à ce rythme puisse s'arrêter. Et là, ils vont me donner encore une bourse européenne. Et là, je vais obtenir la bourse des thèses, premièrement du Musée Royal de l'Afrique centrale, qui m'a supporté pendant 2 ans. Et après, je vais avoir une bourse de l'ARES, l'Union européenne, pendant aussi 2 ans, pour finaliser ma thèse. Et aussi, pendant cette période-là difficile où la bourse de la province avait pris fait, pendant cette période, j'avais postulé à un prix. On appelait ça bourse de Mers François. Et là, je vais gagner le prix. Et je me rappelle, c'était la même année que le docteur Mukwege avait gagné aussi ce prix Nobel. Et nous étions presque dans la même université. Lui, il était en médecine, vous voyez. Lui, il gagne ce prix Nobel. Moi, je gagne un prix. Donc, le mien était moins compétitif que celui de Mukwege. Mais en fait, dans le couloir, quand nous on passait, ah non, mais en volcanologie, il y a quelqu'un qui a aussi gagné le prix et que c'est un Congolais. Et ça me faisait la fierté. Ouais. Je me disais, ah, de l'autre côté, nous avons gagné avec le docteur Mukwege, mais moi aussi, comme doctorat, parce que lui venait de terminer, moi aussi j'ai gagné mon prix. Et c'était vraiment la joie. Et je ne cesse vraiment d'exprimer cette joie.
Professeur Adalbert Mouindo, comment se termine la formation doctorale? Par une autre distinction, les sujets de travail?
Oui, à l'Université libre de Bruxelles, évidemment, je vais me distinguer d'une manière là exceptionnelle, à risque naturel, évidemment, pour la gestion de risques dans des pays du Sud. Et là, je vais être retenu, d'abord comme professeur en société. En Europe, on nous appelle des assistants, donc je vais commencer à accompagner les professeurs dans les enseignements. Et là, il y a eu un post-doc. Donc, c'est un poste qui est gagné par le doctorat, qu'on va me proposer par l'université et à Marseille. Et là, je devais y aller pour 2 ans. Mais quand j'ai posé la question à ma chère épouse, Rachel, elle va me dire non, mais moi, je ne suis pas marié à un fantôme. Hein. Il faut d'abord rentrer au Congo. Et en respectant, en obéissant à ma femme, j'étais obligé de retourner au Congo.
Avant de parler maintenant de votre parcours professionnel, nous allons prendre une chanson. C'est vous qui allez la choisir pour nous.
Moi, j'aime toujours des musiques douces, hein, surtout d'adoration. Et j'aime beaucoup plus les exons.
Oui, un titre de la collection que nous pouvons prendre.
Oh, j'élève la voix.
Longue est la nuit et profond le silence. Les ténèbres ont l'absence de lumière et d'éclat. De l'ombre à l'oubli, de la peine à la faute, à ne croire à rien d'autre qu'à l'effort sans la foi. Mais j'élève la voix, je me lève et je crois à la vie qui redonne le souffle et la force aux élans de ma foi. Et je marche et je vois un chemin au-delà, une étoile au matin et la nuit qui s'en va au cri de ma joie. Dans mon cœur tant écrit et mes lèvres se ferment sur des mots qui m'enferment dans le sens qu'ils ont pris. Et pourtant je sais bien, avec l'aube à ma porte et les chants qu'elle m'apporte, je saurai le chemin. Je me lève et je crois à la vie qui redonne et le souffle et la force aux élans de ma foi. Et je marche et je vois un chemin au-delà, une étoile au matin et la nuit qui s'en va.
Alors, après cette chanson, votre choix, j'espère que les auditeurs ont également apprécié la chanson « J'élève ma voix » d'Exo Éclat. Nous revenons dans ce studio pour poursuivre cette émission Étoile qui reçoit les directeurs généraux de l'Observatoire volcanologique de Goma, M. Adalbert Mouindo. Après vos études en Europe, en quelle année vous devenez directeur de l'OVG?
Ah, ça n'a pas traîné. Je suis arrivé à l'observatoire, évidemment, parce que j'ai fini à décembre 2019. C'était moi 2 ans après, en 2020, vers la fin, je vais être nommé directeur général de l'OVG. Et d'ailleurs, pour certains disent que non, mais tu avais refusé les postes de Marseille parce que tu savais qu'il sera nommé directeur. On ne sait pas les cas.
Fin 2020, vous devenez directeur de l'OVG et en mai, il y a une éruption qui vous accueille.
Ah oui! Évidemment, les collègues avec qui on était à l'école, à Liège comme à l'Université libre de Bruxelles, ils ne cessaient de m'appeler. Mais vous aviez toujours fait des modélisations pour nous faire des simulations de coulées de lave dans des ravins pour nous montrer des zones qui seront menacées par des coulées de lave. Maintenant, vous les avez à pratiquer. Et ils appelaient ça baptême de feu. Oui. Et c'était vraiment le baptême de feu. Ça menait une très grande pression. Je sentais comme si c'est tout Goma qui était au-dessus de ma tête. Vous avez vu, on a évacué la population, les 10 quartiers de la ville de Goma, parce qu'il y avait des informations déjà qu'on observait ici, qui étaient confirmées aussi par nos collègues chercheurs au niveau de l'Europe et aussi des États-Unis, qui me disaient que non, la lave est en sous-sol en train de progresser vers ton bureau. Et là, je vais être obligé d'appeler l'excellence. Et je me rappelle, ils étaient en Serena, ils étaient à pleine conseil de ministre. Je vais me faire passer seulement devant la porte pour qu'ils me voient et si lui communiquer cette information. Et là, il m'a posé seulement la question, mais comment on fait lorsqu'il y a une situation comme ça? Évidemment, comme j'avais à main encore les théories de l'école, je dis non, mais lorsqu'il y a déjà des menaces comme ça, il faut appeler les observatoires à travers le monde et comme ça, ils vont se joindre à nous et on va faire une conférence. Parce que j'avais encore un carnet d'adresses très chargé. J'ai appelé tout le monde, tous les observatoires du monde. Et on s'est réunis environ 28 centres de recherche et observatoires du monde. Dans ce bureau, on a fait des projections et donc chacun intervenait avec son expertise pour essayer de décider et voir où sont les risques volcaniques. Et ça, ça a été vraiment pour moi une fierté du fait que j'ai vu mes collègues de l'Europe, des États-Unis et répondre au rendez-vous.
Mais de cette éruption, il y a, on dirait, une tache noire sur l'OVG. Vous n'avez pas averti la population. Pourtant, votre travail est de surveiller et d'avertir, d'alerter pour que les gens sachent qu'il y a éruption. Mais tout le monde a été surpris à Goma.
Oui, parfaitement. Et ça s'explique pourquoi. Parce que vous voyez un peu, nous avons un volcan qui est atypique. Nous avons un lac de lave. Et nous, en volcanologie, lorsqu'on a un lac de lave, c'est que le volcan est déjà en éruption. Mais ça, c'est un langage qui n'est pas partagé avec la population. Parce que lorsqu'il y a une lave en surface, c'est déjà une éruption. Donc, nous avons un volcan qui est presque à permanence en éruption. Et donc, on cherche à prédire une éruption sur un volcan déjà en éruption. Parce que, en fait, cette éruption, comme quelqu'un qui était à Goma, et même ceux qui essaient de voir, ils comprennent qu'il n'y avait pas eu de secousses juste avant l'éruption. Il n'y avait pas eu de tremblement de terre. C'était calme. Et ce jour-là, j'étais ici. J'étais en train de rédiger un article. Je devais passer une nuit ici. Je venais à peine de terminer à manger sur cette table. Et puis, quelqu'un de Majengo, Verbouene là-bas, il va m'appeler. Non, mais tu es venu à Tombo, car c'était bien. Il dit, mais tiens, c'est pas possible. J'étais monté en étage, je vois la lumière. Je dis, mais c'est pas possible. J'étais descendu au labo, je trouve qu'il n'y a rien comme signaux ce soir-là. Et voilà l'éruption. Parce que c'était la lave qui était déjà à hauteur, donc dans ce qu'on appelle la marmite, là au sommet. Et maintenant, les lèvres ont été fragilisées et ça cédait. Ça qui est une pression interne. Or, pour qu'il y ait des signaux, il faut qu'il y ait des pressions internes. Car nous avons toujours dit que ce sont le gaz volcanique qui est le moteur même de l'éruption. Et donc, il faut que ce gaz pousse le magma à surface et ça commence à bousculer les parois, les fissures pour nous annoncer, nous communiquer son état. Oui. Mais ça peut être le cas.
Nous parlons de votre travail, donc c'est depuis fin 2020 que vous êtes directeur de l'OVG. Nous sommes début 2023, ça fait déjà 2 ans que vous êtes là. Comment ça se passe le boulot, le travail de gérer un centre comme celui-ci à côté d'un volcan très actif?
Ah oui, c'est une très très grande responsabilité. Parce qu'en fait, si vous essayez de voir la population qui vit dans les champs du volcan Nyiragongo, vous allez vous étonner. Si tout cas vous passez dans d'autres observatoires, vous verrez qu'ils n'ont qu'une dizaine ou alors une vingtaine ou une centaine de personnes. Mais ici, la ville de Goma, la ville de Gisenyi, sont bâties dans les champs du volcan Nyiragongo. Et quand je dis champs du volcan Nyiragongo, c'est que c'est dans la zone où les coulées de lave peuvent atteindre facilement. Et donc, c'est une très grande responsabilité. Et en plus de cela, notre flanc est fissuré. Parce que les 3 éruptions que nous avons déjà connues, ce sont des éruptions fissurales. Et donc, de coulées qui peuvent sortir par des fissures. Alors, en termes de complexité de ce que nous surveillons, je sens cela comme une très grande charge. Mmh. Et c'est une lourde responsabilité. Et ça, c'est d'abord quelque chose que j'ai toujours porté au cœur. J'ai toujours dit à mes collègues, est-ce que vous reconnaissez, est-ce que vous voyez ce que vous avez comme responsabilité? La responsabilité de surveiller un volcan en éruption d'une manière continue et sur un flanc fissuré un peu partout, c'est vraiment complexe. Et d'ailleurs, je me rappelle que ma chère épouse, permettez que je parle toujours d'elle, en fait, elle m'a toujours dit, mais c'est encore les études ou quoi? Pourquoi vous rentrez chaque fois le soir, aller travailler? Ou alors vous demandez à ce que vous avez à manger au bureau? La thèse n'est pas finie et elle continue ou quoi? J'ai dit non, mais il y a une très grande responsabilité. Et donc, au travail ici, 24 heures, et il y a souvent des chercheurs qui passent aussi nuit dans des laboratoires. Et moi-même, je dois passer des fois ici de nuit quand je sens que le travail n'est pas fini.
Quels sont les grands défis auxquels vous faites face dans votre travail de gérer cet observatoire?
Le plus grand défi à l'observatoire, c'est l'aspect social. Parce que la recherche, c'est quelque chose qui n'est pas payant. Nous, quand on donne les formations à la population, on ne demande pas du sous. Et donc, nous ne générons pas de recettes. Et la vie sociale, nous dépendons totalement de notre salaire que nous donne l'État congolais. Et vous savez vous-même quel est le budget qui est affecté pour la recherche. Lors de l'éruption, le chef de l'État, vous l'avez vu passer ici. Vous avez vu même plusieurs ministres sont passés ici. Et à ces occasions-là, ils ont donné une prime à l'observatoire. Une prime qui a été payée depuis les jours d'éruption jusqu'à décembre 2022. Et ça, c'est une prime indépendante de ce que nous recevons dans le système ordinaire. Mmh. Et ça, je dis merci parce que les chefs de l'État, les gouvernements congolais ont répondu au social de l'OVG. Et je souhaite toujours qui puisse continuer ici, de ne pas baisser les bras, parce qu'on est déjà loin peut-être de l'éruption, que les gens puissent baisser les bras. La surveillance ne prend d'un jour, et surtout plus vous vous éloignez, et plus vous vous rapprochez encore d'une autre éruption. Et donc il faut encore tenir son bouclier.
Quelle est votre vision pour l'OVG?
Ma vision, c'est vraiment ce que l'observatoire de Goma soit comme d'autres observatoires du monde. C'est que j'aimerais qu'il y ait des professeurs dans chaque département. Dans chaque département, il faut qu'on ait des chercheurs de haut niveau. C'est pourquoi je vise, j'ai toujours sensibilisé les collègues d'aller se faire former. Parce que si on a dans des départements, par exemple, sismologie, géodésie, géochimie, des professeurs ou des chercheurs de haut niveau, compétitifs, sur le plan international, ça va nous donner une très grande visibilité.
Alors, messieurs les directeurs de l'OVG, nous allons terminer cette émission étoile en revenant à votre vie familiale. Vous êtes tout le temps dans cet environnement des laves, des volcans et tout. Comment passez-vous du temps en famille? Qu'est-ce que vous faites avec vos enfants pour dire que vous êtes là comme père?
Quand je rentre à la maison, mais je veux dire que ces derniers temps, je le fais moins. Je suis répétiteur de mes enfants. Et à part ça, pour le sport, j'aime le jogging, ou au moins 2 fois la semaine. Vous me trouverez sur la route.
Qu'est-ce que vous aimez souvent manger ou qu'est-ce qu'on vous amène ici quand vous devez passer la nuit au bureau?
Moi, j'aime beaucoup le patate douce, hein, et le pomme de terre, beaucoup plus encore, et le poisson. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai vécu la face à Vichumbi, au bord du lac. Mmh. Il y avait beaucoup de poissons. Et donc, c'est un goût qui est resté à moi. Je prends beaucoup de pommes de terre. Je n'hésite pas de les prendre deux fois par jour. Hein.
Au poisson.
Ouais, ouais. Ça, c'est mon plat préféré. Pommes de terre et tilapia. Je suis bien.
Alors, Monsieur Adalbert Mouindo, je vous remercie de nous avoir partagé votre expérience depuis la jeunesse, la formation, la profession, mais également la vie en famille. Et Radio Capi vous souhaite les meilleurs, une heureuse année comme directeur, une heureuse année aussi comme père de famille.
Merci beaucoup, merci d'avoir passé à moi.